15. Le brasero était effectivement ouvert pour le déjeuner. Ralph commença donc par là. Deux des employés qui étaient de service le soir du meurtre étaient présents. L'hôtesse d'accueil et un serveur à la coupe en brosse qui semblait avoir tout juste l'âge de commander une bière. L'hôtesse ne fut d'aucune aide.
« C'était la folie ce soir, l'inspecteur. »
Et si le jeune garçon se souvenait vaguement d'avoir servi une table de professeur, il demeura évasif quand Ralph lui montra une photo de Terry provenant de l'album du lycée de l'année précédente.
« Oui, »
dit-il. Il se souvenait
« plus ou moins »
d'un type qui ressemblait à ça. Mais il ne pourrait pas jurer que c'était celui de la photo. D'ailleurs, il n'était même pas certain que ce bonhomme était avec un groupe de profs.
« Si ça se trouve, je lui ai servi une assiette de hot wing au bar. »
Et voilà. Tout d'abord, Ralph n'eut guère plus de chance au Sheraton. Il obtint la confirmation que Maitland et William Quaid avaient effectivement occupé la chambre 644 le mardi soir. Et le gérant put lui montrer la note. Mais elle portait uniquement la signature de Quaid. Il avait payé avec sa Mastercard. Le gérant lui apprit, par ailleurs, que la chambre 644 avait été occupée tous les jours depuis et nettoyée chaque matin.
« Nous préparons les lits le soir, également, »
précisa le gérant, d'un ton cassant.
« Ce qui signifie que la chambre est souvent nettoyée deux fois par jour. »
« Oui, bien sûr, » poursuivit-il. L'inspecteur Anderson avait tout le loisir de consulter les images de vidéosurveillance, ce que fit Ralph, sans s'offusquer du fait qu'Alec Pelé ait pu en faire autant avant lui. Ralph n'appartenait pas à la police de Cap City et, par conséquent, diplomatie était mère de sûreté. Les images étaient en couleur et de bonne qualité. Il repéra plusieurs fois un homme qui ressemblait à Terry, dans le hall, à la boutique de souvenirs, en train de s'entraîner brièvement le mercredi matin dans la salle de fitness, puis devant la salle de bal, alors qu'il faisait la queue pour obtenir un autographe. Si les images du hall et de la boutique de souvenirs pouvaient prêter à confusion, le type qui signait le registre afin d'utiliser les équipements sportifs et celui qui faisait la queue pour faire signer son livre était bien l'ancien coach de son fils. Celui qui avait appris à Derek à réaliser des bunts, lui permettant ainsi de changer de surnom. En son fort intérieur, Ralph entendait sa femme lui expliquer que les preuves scientifiques relevées à Cap City constituaient la pièce manquante, le ticket d'or.
« Si Terry était ici, »
avait-elle dit en parlant de Flint City,
« en train de commettre ce meurtre, alors son double devait être là-bas. C'est la seule explication sensée. »
« Non, tout cela n'a aucun sens, » murmura-t-il, les yeux fixés sur le moniteur. Sur l'image figée d'un homme qui ressemblait assurément à Terry Maitland, filmé en train de rire, alors qu'il faisait la queue en compagnie de son chef de département, Rand Hill.
« Pardon, »
fit le détective de l'hôtel qui lui avait montré les bandes.
« Rien. Vous souhaitez voir autre chose ?»«
Non, mais merci pour tout. » C'était une mission perdue d'avance. L'enregistrement de Channel 81 avait quasiment rendu inutile les bandes de surveillance, de toute façon, car c'était bien Terry qui interrogeait Harlan Coben. Nul ne pouvait en douter. Mais dans un coin de son esprit, Ralph en doutait encore. La manière dont Terry s'était levé pour poser sa question, comme s'il savait qu'une caméra serait braquée sur lui,
c'était trop parfait.
Pouvait-il s'agir d'une mise en scène? Un tour de passe-passe stupéfiant, mais explicable en définitive? Ralph ne voyait pas comment cela était possible. En même temps, il ne savait pas comment David Copperfield avait pu traverser la Grande Muraille de Chine, et Ralph l'avait vu à la télé. Dans ce cas, Terry Maitland n'était pas juste un meurtrier, mais un meurtrier qui se moquait d'eux.
« Juste une chose, inspecteur, » dit le détective de l'hôtel. « J'ai reçu une note de Harley Bright, le Big Boss, disant que toutes les images que vous venez de visionner devaient être conservées à l'intention d'un certain Howard Gold, avocat. »
« Je me fous de savoir ce que vous en faites, » répondit Ralph. « Vous pouvez les envoyer à Sarah Palin, à Plougville, Alaska, ça m'est égal. Je rentre chez moi. » Voilà, bonne idée. Rentrer chez lui, s'asseoir dans son jardin avec Jenny, partager un pack de 6 avec elle, 4 pour lui, 2 pour elle, et essayer de ne pas devenir dingue en pensant à ce satané paradoxe. Le détective de l'hôtel le raccompagna à la porte du bureau de la sécurité.
Ils disent aux infos que vous avez arrêté le type qui a tué cet enfant ?
Ils disent beaucoup de choses aux infos. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps, monsieur.
C'est toujours un plaisir d'aider la police.
Dommage que ça ne soit pas le cas, pensa Ralph.
Arrivé à l'extrémité du hall, il s'arrêta juste avant de pousser la porte à tambour, frappé par une idée.
Puisqu'il était là, autant aller vérifier autre chose.
D'après Terry, Debbie Grant avait foncé aux toilettes aussitôt après l'intervention de Coben, et elle était restée absente longtemps.
« Je suis allé au kiosque à journaux avec Eve et Billy », avait dit Terry. « Elle nous a rejoints là-bas. »
Le kiosque constituait une sorte d'annexe de la boutique de souvenirs. Derrière le comptoir, une femme aux cheveux gris trop maquillée remettait de l'ordre dans une vitrine de bijoux bon marché. Ralph lui montra son insigne et lui demanda si elle avait travaillé le mardi précédent.
« Je travaille ici tous les jours, sauf quand je suis malade. Sur les livres et les magazines, je ne touche rien, mais sur les bijoux et les tasses souvenirs, je suis payé à la commission. »
« Vous souvenez-vous de cet homme par hasard ? Il était ici mardi dernier avec un groupe de professeurs d'anglais pour une conférence. »
Il lui présenta la photo de Terry.
« Oui, bien sûr, je me souviens de lui. Il était intéressé par le livre sur Flint City. C'était le premier depuis je ne sais combien de temps. Ce n'est pas moi qui l'ai commandé. Ce foutu bouquin était déjà là quand j'ai repris le bail en 2010. Je devrais l'enlever de la vitrine, mais pour le remplacer par quoi ? Tout ce qui se trouve plus haut ou plus bas que les yeux, ça ne se vend pas. C'est un truc qu'on apprend vite dans ce métier. En bas, on met les trucs pas chers. En haut, c'est les beaux livres, avec des photos sur papier glacé.
« De quel livre parle-t-on, madame ?» Il regarda son badge. « Madame Level. »«
Celui-ci, » répondit-elle en montrant l'ouvrage du doigt. « Une histoire illustrée de Flint County, Dory County et Canning Township. » Accrocheur comme titre, hein ?
En se retournant, Ralph découvrit deux présentoirs à côté d'une étagère de tasses et d'assiettes souvenirs. Le premier présentoir accueillait des magazines, le second, un mélange de livres de poche et de nouveautés en grand format. Sur celui-ci, tout en haut, se trouvait une demi-douzaine d'ouvrages plus grands, que Gianni aurait qualifié de livres pour table basse. Ils étaient emballés sous film plastique, afin que les gens ne salissent pas et ne cornent pas les pages en les feuilletant. Ralph s'en approcha pour les voir de plus près. Terry, qui mesurait bien 8 centimètres de plus que lui, n'aurait pas été obligé de lever la tête ni de se dresser sur la pointe des pieds pour prendre l'un de ses ouvrages. Il tendit la main vers celui que Madame Level avait mentionné, puis se ravisa. Il se retourna.
« Dites-moi ce dont vous vous souvenez. »«
Au sujet de ce type ? Pas grand-chose. Le magasin de souvenirs s'est rempli après la conférence, ça je m'en souviens, mais moi, je n'ai pas eu beaucoup de clients. Vous savez pourquoi je parie ?»
Ralph secoua la tête, s'efforçant d'être patient. Il sentait qu'il avait mis le doigt sur quelque chose là, et il pensait, il l'espérait, savoir de quoi il s'agissait.
Les gens ne voulaient pas perdre leur place dans la queue, évidemment. Ils avaient tous le dernier roman de M. Coben pour patienter. Malgré cela, ces trois messieurs sont entrés, et l'un d'eux, le gros, a acheté le nouveau livre de Lisa Garner. Les deux autres ont juste feuilleté des bouquins, et puis une dame a glissé la tête à l'intérieur pour dire qu'elle était prête, alors ils sont ressortis, pour aller demander leurs autographes, j'imagine.
L'un d'eux, le plus grand, s'est intéressé au livre sur Flint County.
Oui, mais je crois que c'est surtout la présence de Canning Township dans le titre qui a attiré son attention. M'a-t-il dit que sa famille avait longtemps vécu là-bas ?
Je n'en sais rien, à vous de me le dire.
Oui, j'en suis presque sûr. Il a pris le livre, mais quand il a vu le prix, $79, il l'a remis en place.
Bingo. Quelqu'un consultait ce livre depuis ? Quelqu'un d'autre l'a pris sur l'étagère ?
Ce bouquin, vous plaisantez.
Ralph se retourna vers le présentoir, se dressa sur la pointe des pieds et prit l'ouvrage emballé sous plastique. Il le tenait par les côtés, entre ses paumes. En couverture figurait une photo sépia représentant une procession funéraire d'une autre époque. Six cow-boys, coiffés de chapeaux cabossés, pistolets à la ceinture, transportaient un cercueil de planches dans un cimetière poussiéreux. Un prêtre, armé d'un pistolet lui aussi, les attendait devant une tombe, une Bible à la main. Le visage de Madame Level s'égaya considérablement.
« Vous voulez vraiment acheter ce livre ?»«
Oui. »«
Donnez-le-moi, je vous prie, que je scanne le prix. »«
Surtout pas. »
Il approcha le livre, code-barre en avant, pour qu'elle puisse le scanner sans y toucher.
Avec les taxes, ça fait 84,14 $. Mais on va arrondir à 84.
Ralph déposa soigneusement le livre sur la tranche pour pouvoir tendre sa carte de crédit. Il glissa le reçu dans sa poche de poitrine, puis reprit le livre en utilisant uniquement ses paumes, à la manière d'un calice.
« Il l'a manipulé, » dit-il, comme pour confirmer son incroyable chance. « Vous êtes certaine que l'homme de la photo a manipulé ce livre ?»«
Il l'a descendu de l'étagère et il a dit que la photo avait été prise à Canning Township. Ensuite, il a regardé le prix et il l'a reposé. Comme je vous l'ai dit, c'est une sorte de preuve ?»«
Je ne sais pas, » dit Ralph en regardant les cow-boys en deuil qui ornaient la couverture. « Mais je vais bientôt le savoir. »
16. Le corps de Frank Peterson avait été remis aux pompes funèbres des frères Donnelly le jeudi après-midi. Arlene Peterson s'était occupée de tout, la notice nécrologique, les fleurs, la commémoration du vendredi matin, l'enterrement lui-même, la cérémonie devant la tombe et la réception des amis et de la famille le samedi soir. Il le fallait. Fred était incapable d'organiser quoi que ce soit, même en temps normal.
« Mais cette fois, il faut que ce soit moi, »
pensa-t-il, quand Holly et lui rentrèrent de l'hôpital.
« Il le faut, car il n'y a personne d'autre. Ce type de chez Donnelly m'aidera. Ce sont des spécialistes. »
« Oui, mais comment faire pour payer un second enterrement si proche du premier? L'assurance prendrait-elle les frais à sa charge ? » Il n'en savait rien. Là encore, c'était Arlene qui s'occupait de tout ça. Ils avaient conclu un arrangement. Il rapportait l'argent à la maison, elle réglait les factures. Il allait devoir chercher les documents dans le bureau de sa femme. Cette simple pensée l'épuisait. Le père et le fils s'assirent dans le salon. Holly alluma la télé. ESPN diffusait un match de soccer. Ils le regardèrent un instant, alors que ni l'un ni l'autre ne s'intéressait à ce sport. Ils étaient fans de football américain. Finalement, Fred se leva, se traîna jusque dans le couloir et revint avec le vieux carnet d'adresses rouge d'Arlene. Il ouvrit à la page des dés, et oui, le numéro des frères Donnelly y figurait, inscrit d'une écriture tremblante. Évidemment, elle n'aurait pas noté les coordonnées d'une entreprise de pompes funèbres avant la mort de Frank. Les Peterson n'étaient pas censés se préoccuper de l'organisation de cérémonies funéraires avant des années. Des années. En regardant ce carnet en cuir rouge usé et raflé, Fred songea à toutes les fois où il l'avait vu entre les mains d'Arlene, recopiant des adresses qui figuraient au dos d'enveloppes ou, plus récemment, trouvées sur Internet. Il se mit à pleurer.
« Je ne peux pas, » dit-il. « Non, je ne peux pas. Pas si tôt après Frankie. »
À la télé, le commentateur brailla
« But !»
et les joueurs en maillot rouge sautèrent dans tous les sens. Holly éteignit le poste et tendit la main.
« Je vais le faire. »
Fred le regarda, de ses yeux rougis et ruisselants.
« Ne t'en fais pas, papa. Je t'assure, je m'en occupe. Et du reste, si tu m'entêtes reposé. »
Tout en sachant qu'il avait sans doute tort de laisser ce fardeau à son fils de 17 ans, il monta dans la chambre. Il se promit d'assumer sa part de travail plus tard, mais pour l'instant, il avait besoin de récupérer. Il ne tenait plus debout.
17.
Alec Pellet ne put se libérer de ses obligations familiales avant 15h30 ce dimanche-là. Résultat, il était 17h passées quand il atteignit le Sheraton de Cap City. Mais le soleil brûlant continuait à creuser un trou dans le ciel. Il se gara devant l'hôtel, glissa un billet de 10 $ au voiturier en lui demandant de garer sa voiture à proximité. Laurette Level, la gérante du kiosque, avait recommencé à arranger ses bijoux dans la vitrine. La visite d'Alec fut brève. Il ressortit et, adossé à son explorer, il appela Howie Gold.
J'ai devancé Anderson pour les bandes de surveillance et l'enregistrement télé, mais il m'a pris de vitesse pour le bouquin. Il l'a acheté. On peut appeler ça un match nul.
Merde !
Cracha Howie.
Comment il a su ?
Je crois qu'il ne savait pas. À mon avis, c'est un mélange de chance et de travail d'enquête à l'ancienne. La femme du kiosque dit qu'un type a pris ce bouquin sur l'étagère le jour de la conférence de Coben. Et en voyant le prix, presque 80 $, il l'a reposé. Apparemment, elle ne savait pas qu'il s'agissait de Maitland. J'en déduis qu'elle ne regarde pas les infos. Elle a raconté ça à Anderson et il a acheté le bouquin. Il paraît qu'il le tenait par les bords
entre ses paumes.
Dans l'espoir de relever des empreintes qui ne soient pas celles de Terry,
dit Howie.
Et suggérer ainsi que l'individu qui a manipulé ce livre n'était pas Terry. Mais ça ne marchera pas. Dieu sait combien de personnes ont pu manipuler ce livre.
La femme du kiosque ne serait pas de cet avis. Elle affirme que cet exemplaire était là depuis des mois sans que quiconque y ait touché.
Ça ne change rien.
Howie ne semblait pas inquiet. Alec pouvait donc s'inquiéter pour deux. Certes, ce n'était pas un élément capital, mais c'était quand même quelque chose. Un petit défaut dans une affaire qui prenait joliment forme pourtant. Un défaut potentiel, se rappela-t-il, que Howie contournerait sans peine. Les jurés ne s'intéressaient pas aux preuves qui n'existaient pas.
« Je voulais juste vous avertir, patron. Vous me payez pour ça. »«
Bien. Voilà donc averti. Vous assisterez à la lecture de l'acte d'accusation demain ?»«
Je ne manquerai ça pour rien au monde. Vous avez parlé de la remise en liberté sous caution avec Samuels ?»«
Oui, la discussion a tourné court. Il a promis de s'y opposer de toutes ses forces. Ce sont ses mots exacts. »«
Bon sang. Ce type n'abandonne donc jamais. »
Bonne question.
Vous pensez l'obtenir malgré tout?
C'est probable. Rien n'est sûr, mais j'ai bon espoir.
Si Maitland est libéré sous caution, dites-lui d'éviter de se promener dans son quartier. Beaucoup de gens gardent une arme chez eux pour se protéger, et à l'heure actuelle, il est l'habitant le moins populaire de Flint City.
Il sera assigné à résidence, et vous pouvez être sûr que les flics vont surveiller sa maison.
Oh oui, soupira.
Quel dommage cette histoire de bouquin.
Alec mit fin à la communication et sauta dans sa voiture. Il voulait être rentré chez lui à temps pour faire des pop-corns avant Game of Thrones.